Ce matin, Philippe s'est posé un certain nombre de questions. Eh bien, moi aussi. Et je me suis posé cette question. Si jamais Jésus était assis quelque part dans cette pièce avec nous ce matin, est-ce que nous serions en mesure de deviner ce que Jésus allait faire dans les 10 prochaines minutes ? Ce qu'il allait dire ou faire dans les minutes qui vont suivre. Et moi, j'ai un certain nombre d'amis, et j'ai l'impression que je serai en mesure de deviner. Mais pourtant, je crois sincèrement que je ne serai pas en mesure de savoir ce que Jésus ferait dans les 10 prochaines minutes s'il était parmi nous. Parce que, durant sa vie, Jésus n'a cessé de surprendre ceux qui pensaient pourtant bien le connaître, que ce soit ses adversaires, sa famille, ses amis proches, et même ses proches disciples. Tous ont été à certains moments soit surpris, soit même choqués, ou même révoltés par certaines paroles, attitudes de cœur de Jésus et actes. Jésus a surpris tout le monde, je pense, parce que personne n'avait réellement pris la mesure de ce qu'impliquait une vie en communion avec Dieu. Est-ce que nous croyons bien connaître Jésus ? Est-ce que nous pensons en savoir suffisamment sur lui pour savoir ce qu'il ferait dans telle ou telle situation ? Est-ce que nous en savons suffisamment sur Jésus pour savoir ce qu'il pense réellement de nous ou ce qu'il attend de nous ? Et moi, je vous le dis comme je le pense, si jamais ce matin vous pensez en savoir suffisamment sur Jésus, c'est-à-dire si vous pensez ne plus à avoir à prendre quelque chose, à apprendre quelque chose sur lui, eh bien je pense que c'est le signe que pour vous, Jésus est un inconnu. Vous le connaissez tellement peu que vous imaginez en savoir suffisamment sur lui. Parce que Jésus est à la fois pleinement homme, mais aussi pleinement Dieu. Jésus reflète la perfection infinie de Dieu, aussi bien dans ses pensées, dans son caractère et dans ses actes. Et comme nous-mêmes, nous ne sommes, enfin, jusqu'à nouvel ordre, nous ne sommes ni parfaits, ni infinis, cela signifie que nous aurons toujours de nouvelles choses à découvrir sur Jésus. Des choses merveilleuses que Jésus nous révélera au fur et à mesure que nous serons en mesure de les voir et comprendre ces choses qu'il veut nous révéler. Et connaître ou ne pas connaître Jésus est quelque chose de vraiment déterminant dans une vie. Déjà, on constate que des millions d'hommes ou de femmes ont vu leur vie totalement transformée le jour où ils ont découvert Jésus. Des cœurs brisés ont été guéris par la connaissance de l'amour de Jésus pour ces personnes. Des gens ordinaires ont connu des vies extraordinaires en découvrant et en mettant en pratique l'enseignement de Jésus dans leur propre vie. Cela vaut donc toujours la peine d'apprendre à mieux connaître Jésus. Je vous invite ce matin à ouvrir vos Bibles dans l'Évangile de Jean, au 2e chapitre, et le texte sera même projeté. Donc c'est l'apôtre Jean qui est le rédacteur de ce livre. L'évangile de Jean, pas plus que les 3 autres évangiles d'ailleurs, ne rapporte pas tout de la vie de Jésus, mais seulement quelques épisodes de sa vie. Et ces extraits ont été choisis dans un but précis, but que Jean explique lui-même à la fin dans son évangile que je vais vous lire. En Jean 20, verset 30, Jean écrit ceci à la fin de son évangile. Jésus a accompli encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci, donc ce que Jean a rapporté, mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez en que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. » Le mot traduit par « signe » dans cette traduction est traduit par « miracle » dans d'autres traductions de la Bible. En fait, c'est le même mot. Qu'est-ce que c'est qu'un miracle ? Un miracle, c'est un signe que Dieu nous envoie pour que nous comprenions que c'est lui qui agit. Eh bien, le récit que nous allons lire maintenant correspond au tout premier miracle que Jésus a accompli au tout début de son ministère devant ses tout premiers disciples qui ne suivent Jésus que depuis quelques jours. Nous allons en quelque sorte assister à la rentrée d'un enseignant de ses élèves, ou plus exactement d'un maître et de ses disciples. Voilà, j'attends que tout le monde soit prêt. Vous me direz, les ados, quand vous serez prêts. Vous êtes prêts ? J'avais pas l'impression d'ici. Alors, ma mère, qui était professeure, disait que le jour de la rentrée, c'était le jour le plus important de l'année. Parce que même si ce jour-là, il n'y avait pas vraiment de cours, eh bien, grâce à ce tout premier contact entre les élèves et leurs profs, eh bien, les élèves allaient se faire une idée de qui allait les enseigner. Quelle était la personnalité de leur prof, quel était son style, quelles allaient être ses méthodes et quel type de relation il allait avoir entre le maître et les élèves. Et ma mère disait que ce jour-là, il ne fallait pas rater son entrée. Eh bien, nous allons lire maintenant quel est le signal que Jésus, le maître, a choisi d'envoyer à ses disciples afin qu'ils apprennent à mieux le connaître. Jean chapitre 2, versets 1 à 11. Or, le troisième jour, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Comme le vin venait à manquer, la mère de Jésus lui dit : « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit : « Que me veux-tu, femme ? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur : « Faites tout ce qu'il vous dira. » Or, il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs et contenant chacune une centaine de litres. Jésus leur dit : « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent tous jusqu'au bord. « Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'organisateur du repas. » Et lui en apportèrent. L'organisateur du repas goûta l'eau changée en vin. Ne sachant pas d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela le marié et lui dit : « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » Tel fut à Cana le premier des signes miraculeux que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Alors vous, je ne sais pas ce que vous pensez de ce miracle. Et je ne sais pas, quand je dis miracle, pas simplement un miracle de Jésus parmi tant d'autres, mais qu'est-ce que vous pensez de ce tout premier miracle accompli par Jésus? Parce que, voilà, souvenons-nous de ce que nous venons de lire quand même. Donc Jésus est présent à un mariage, très bien. La fête bat son plein, et notre texte nous dit que la fête aussi, parce que visiblement, les gens aussi sont pleins. Parce que la remarque de l'organisateur au verset 10 montre que au moment du miracle, les invités, en tout cas du moins un certain nombre d'entre eux, ces invités étaient déjà ivres. Ils avaient donc déjà bu trop de vin. Et puis, c'est à ce moment-là que le vin vient à manquer. Alors, là, on serait tenté de dire, tant mieux, heureusement qu'il n'y a plus de vin. Il aurait même fallu qu'il en manque encore un peu plus tôt. Et pourtant, qu'est-ce que Jésus va faire ? Il va miraculeusement transformer de l'eau en vin. Et pas seulement un petit peu, il va en faire des centaines de litres. Il y a, dans le pays, au moment où vit Jésus, des milliers de pauvres, des milliers de malades, d'infirmes, de victimes d'injustice qui ont besoin d'aide. Et comme tout premier miracle, devant ses tout premiers disciples, qu'est-ce que Jésus va faire? À un mariage où les gens avaient déjà trop bu, il va transformer de l'eau en vin. Alors vous, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi pendant longtemps, j'ai considéré que Jésus avait transformé de l'eau en vin, V-A-I-N. Franchement, vu le contexte, est-ce que ça ne vous paraît pas un peu futile comme miracle? Que Jésus utilise sa toute puissance pour faire ça. Pendant longtemps, je me suis dit, mais si moi j'avais été à la place de Jésus, moi je n'aurais pas fait cela. J'aurais fait plus utile. Moi j'aime bien les choses qui sont utiles. J'aurais fait plus utile. Ou alors, j'aurais fait mieux. Parce que bon, de l'eau en vin, hein, avec Moïse, c'était de l'eau en sang. Et pas simplement dans des jarres, mais dans le pays tout entier. J'aurais au moins fait mieux. Et si Jésus avait fait ça, et que j'avais été à côté de lui, peut-être que j'aurais fait des reproches. Mais est-ce que t'as pas autre chose à faire de mieux que de donner à boire à ces ivrognes? Mais c'est pourtant ce que Jésus a fait. Et si nous considérons qui est Jésus, nous savons qu'en toute chose, Jésus a toujours parfaitement accompli la volonté de Dieu. Ce qu'a fait donc Jésus est parfait. On ne pouvait pas faire mieux. Et d'ailleurs, ce miracle, ce signe envoyé par Jésus à ses disciples, a eu un tel impact sur eux qu'ils ont perçu sa gloire et qu'ils ont cru en lui, c'est ce qui est écrit. Alors pourquoi est-ce que ce miracle a eu un tel impact sur les disciples de Jésus? Pourquoi Jésus a-t-il décidé de commencer à manifester sa gloire par ce miracle-là? Une précision qui se trouve dans le texte biblique, et généralement on n'y fait pas attention, peut nous aider à mieux comprendre en quoi un miracle en apparence futile a ébranlé ses disciples. Et ce détail se trouve dans le verset 6. Il y avait là 6 jarres de pierre destinées aux purifications des Juifs. Ces énormes vases avaient une fonction bien précise, permettre aux personnes présentes d'accomplir des actes de purification rituelle. Par ces actes religieux, elles espéraient se purifier de leur impureté devant Dieu. Et les personnes les plus religieuses avaient à cœur de procéder ainsi, afin de se présenter pures devant Dieu. Alors, on ne sait pas combien il y avait de ces personnes présentes hein, ce jour-là, mais elles devaient probablement en avoir des centaines. On peut déduire ça du nombre de jarres, 6 jarres, de leur énorme capacité, au moins 100 litres chacun, chacune. Et dans vos traductions, c'est peut-être écrit 2 ou 3 mesures. 100 litres, c'est l'estimation basse. Et puis aussi, on peut déduire qu'elles étaient nombreuses parce qu'elles avaient déjà été largement utilisées, à tel point que Jésus doit dire « remplissez d'eau ces jarres ». Donc les gens s'en sont servis. Et que va faire Jésus? Il va changer cette eau en vin. Comme tout premier miracle, Jésus a choisi de transformer la totalité de l'eau destinée aux purifications rituelles en vin. Je ne sais pas si vous mesurez, là on est assis tranquillement, on est dans une autre culture, mais je ne sais pas si vous mesurez la conséquence pratique de ce que vient d'accomplir Jésus. Cela signifie que les centaines de personnes religieuses présentes ce jour-là, en sa présence, ne pourront plus accomplir leur rite de purification, parce qu'on ne se purifie pas avec du vin. À cause de Jésus, à cause de lui, c'est pas un accident, à cause de Jésus, plus personne ne va pouvoir continuer à se purifier devant Dieu de cette manière-là. Imaginez l'impact que cela a dû avoir sur les personnes présentes et sur ses disciples en particulier. Ils ont dû se poser un certain nombre de questions. Hein. Ça faisait que quelques jours qu'ils étaient avec Jésus. Mais qu'est-ce que Jésus a fait? Oh! Comment a-t-il pu accomplir un tel geste? Mais est-ce que ce n'est pas contraire à la volonté de Dieu de faire ça? Ah oui, mais en même temps, c'est un miracle. C'est-à-dire que Dieu est en train d'envoyer un signe que c'est lui qui est derrière cela et qu'il bénit ce que Jésus a fait. Mais que penser de tout cela? Par ce premier miracle, Jésus n'a pas accompli un acte utilitaire, ou en tout cas pas seulement utilitaire, parce que les invités n'avaient plus besoin de vin. Ils avaient au contraire trop bu. Mais par ce premier miracle, Jésus a accompli un acte religieux d'une énorme portée théologique. Il a envoyé un signal très fort à ses disciples. Ce signal dit, contrairement à ce que vous pensiez jusqu'à présent, ce n'est pas en accomplissant des actes religieux que les hommes pourront se présenter devant Dieu. Vous pensiez peut-être qu'en accomplissant certaines choses, vous seriez capable d'être lavé de vos péchés, d'être pur devant Dieu. Eh bien moi, je vous arrête, car vous faites fausse route. Et ce miracle, car il s'agit d'un miracle, ce miracle est le signe que Dieu approuve ce que je viens de faire. Alors, à ce stade-là, les disciples n'ont pas probablement encore compris comment ils pourront s'approcher de Dieu. Mais au moins, ils ont déjà compris un certain nombre de choses sur Jésus, leur nouveau maître. Déjà, ils ont compris que Jésus ne se conforme pas à ce que les autres pensent. Même s'il est entouré de centaines de personnes qui disent « voilà ce que Dieu exige » ou bien « voilà ce qu'il faut faire », si cela ne vient pas réellement de Dieu, Jésus refuse de les suivre. Et même, il prend position contre la majorité bien-pensante. Et c'est justement le cas de ces actes de purification au cours des repas. Parce que cela a l'air de ressembler à certains commandements de Dieu. Et quand on lit l'Ancien Testament, on peut avoir l'impression qu'il y a ce genre de choses. On peut avoir aussi l'impression que procéder ainsi, c'est quelque chose qui est spirituellement sage. C'est même très respectueux de Dieu. On va marquer une pause. On va, par cet acte-là, montrer qu'on veut se purifier devant Dieu. Mais pourtant, Dieu n'a jamais commandé cela. On ne trouve jamais ce commandement écrit dans l'Ancien Testament. Ce ne sont que des traditions humaines. Et même si les motivations de départ étaient probablement bonnes, ces traditions éloignent les gens de Dieu. Aussi, Jésus, même s'il se retrouve seul contre tous, prend ouvertement position. Pour être fidèle à Dieu, il est prêt à se retrouver seul contre tous. Ce jour-là, ses disciples ont également dû comprendre que Jésus risquait de faire voler en éclats leur fausse conviction sur Dieu et sur ce que Dieu attendait réellement d'eux. Mais qu'est-ce qui se passe? Et ils ont compris que pour suivre Jésus et être son disciple, ils allaient devoir être prêts à se laisser surprendre, bousculer et même déranger par Jésus. Et quand on lit les évangiles, on voit que c'est effectivement quelque chose qui va se passer à de nombreuses reprises pour ces pauvres disciples. Est-ce que nous sommes prêts à cela? Est-ce que nous sommes prêts à nous laisser surprendre? Alors c'est un peu curieux, comment est-ce qu'on peut être prêt à nous laisser surprendre? Quand on est surpris, c'est qu'on n'était pas prêt. Mais est-ce que dans notre tête, nous sommes préparés à ce que Jésus, dans notre vie, nous surprenne? Est-ce que vous êtes prêt à vous laisser surprendre, bousculer et déranger par Jésus? Je veux dire, est-ce que vous êtes réellement prêt à accepter que cela puisse arriver? Réellement. Est-ce que vous êtes réellement prêt à le suivre? C'est-à-dire, quel que soit à l'endroit où Jésus veut vous emmener. Et peut-être que Jésus veut vous emmener pas forcément là où vous le souhaitez pour l'instant. Est-ce que vous êtes réellement prêt à ce qu'il vous montre quelle est la volonté de Dieu? Mais pourquoi? Dans un but. Que vous la mettiez en pratique dans votre propre vie. Pas simplement la volonté de Dieu pour les autres, mais la volonté de Dieu dans votre propre vie. Est-ce que vous êtes réellement prêt à entendre ce que Jésus veut vous dire, même si cela ne vous plaît pas? Des fois, il y a des choses qu'on n'a pas envie d'entendre. Est-ce que vous êtes réellement prêt à lui faire confiance et à vous appuyer sur lui, même si cela vous fait peur? N'y a-t-il pas des domaines où nous n'avons pas envie d'avoir des surprises? Moi, j'aime bien les surprises, mais les bonnes surprises, les surprises quelque part que j'ai choisies, entre guillemets. Mais est-ce qu'on est réellement prêt à avoir toutes les surprises que Dieu va mettre devant nous? N'y a-t-il pas certaines convictions auxquelles nous sommes tellement fortement attachés depuis si longtemps que nous ne sommes pas prêts à ce que Jésus nous montre que ces convictions sont fausses et que nous devons les abandonner? Waouh, ça nous remet en question. Nous vivons d'une certaine manière, nous avons fait certains choix de vie, nous avons certaines priorités. Waouh, nous on est comme ça, voilà là où on veut aller. Est-ce que nous sommes prêts à entendre que Dieu n'approuve pas notre manière de vivre et qu'il nous demande d'y renoncer parce que c'est un péché? Nous avons notre propre manière d'agir, notre manière d'être, certaines valeurs qui nous sont propres et qui forgent notre personnalité, notre caractère, notre identité. Est-ce que nous sommes prêts à laisser le Saint-Esprit agir en nous et à nous y soumettre afin que Dieu change notre cœur, notre caractère, pour que nous ressemblions de plus en plus à Jésus? Je pense que malheureusement, il y a des fois où nous préférons mener une vie ordinaire. Bon, notre vie n'est peut-être pas idéale, mais on préfère malgré tout mener cette vie ordinaire-là parce qu'elle est sans surprise. C'est nous qui contrôlons. On préfère cette vie-là plutôt que de mener une vie extraordinaire avec Dieu, mais alors avec bien des surprises. Si nous voulons vraiment suivre Jésus, nous devons être prêts, dans notre tête, intégrer ça, être prêts à ce qui nous surprenne, à ce qui nous bouscule et à ce qui nous dérange. Parce que c'est grâce à cela que le Seigneur nous fera avancer dans sa direction et que nous allons grandir à sa ressemblance. Quand on est trop bien sur nos pieds, on ne bouge pas. Bien des fois, le Seigneur, il a besoin de nous déstabiliser. Parce que c'est lorsqu'on est déstabilisé qu'on va chercher un autre point d'appui. Jésus n'a pas fini de nous surprendre. Et s'il fait cela, c'est parce qu'il a envie que nous nous rapprochions de lui de plus en plus. Lorsqu'il a transformé l'eau en vin, Jésus a surpris les disciples qui étaient présents, en faisant voler en éclats leur force, leur fausse conviction. Il a commencé par cela. Ils ont compris ce jour-là que ce n'était pas par l'intermédiaire d'actes religieux que les hommes pourraient être purifiés de leurs péchés. Il fallait d'abord qu'ils prennent conscience de cela, qu'ils prennent conscience de cette fausse conviction pour recevoir la vérité que Dieu allait leur révéler plus tard. Jésus allait leur révéler plus tard comment, de quelle manière ils allaient pouvoir être purifiés de leurs péchés pour se présenter devant Dieu. Parmi ces apôtres-là, il y avait l'apôtre Jean qui a écrit cet évangile. Il a fait partie de ses tout premiers disciples qui ont été bousculés par Jésus à Cana. Et voilà ce qu'il écrit quelques dizaines d'années plus tard, dans une de ses lettres, dans 1 Jean, au chapitre 1, et versets 9 et 10. Jean lui-même dit ceci: « Si nous reconnaissons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. » Et quelques versets plus loin: « Jésus-Christ, le juste, a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » C'est Jésus, par son sacrifice, qui apaise la colère de Dieu contre nous. C'est Jésus, et Jésus seul, qui peut nous purifier de notre péché. Et cette purification ne s'obtient pas parce que nous avons accompli des actes religieux quels qu'ils soient, mais parce que Jésus lui-même a accompli cela pour nous. Et c'est en reconnaissant notre péché devant Dieu, en lui demandant pardon, que nous rentrons au bénéfice de ce pardon. Est-ce que vous imaginez le chemin parcouru par Jean depuis le jour où Jésus a bousculé, je dirais, ses fausses convictions, et le moment où il a pleinement réalisé cela dans sa vie? Heureusement que Jean a accepté d'être surpris par Jésus. Heureusement que cela n'a pas empêché Jésus de continuer à suivre Jésus. Et il est allé de surprise en surprise avec Jésus. Ses convictions ont changé. Sa vie a changé. Son caractère a changé. Sa relation avec Dieu a changé. Eh bien, c'est ce que Jésus voudrait aussi accomplir dans nos vies à nous. Mais pour cela, pour que ça puisse être possible, nous devons absolument être prêts à ce que Jésus nous surprenne, à ce que Jésus nous bouscule. L'ensemble de la Bible a été écrite pour faire voler en éclats nos fausses convictions sur Dieu et pour que nous comprenions qui est Jésus, pourquoi nous avons besoin de lui, quelle est sa volonté et comment nous pouvons être sauvés par lui. Mais peut-être que nous avons peur de lire la parole de Dieu, peur de la lire ou peur de la relire sous la conduite du Saint-Esprit, c'est-à-dire en demandant au Seigneur, mais est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais me dire, et peut-être même quelque chose que je n'ai pas envie de voir. Moi, je suis émerveillé de voir dans ma vie, mais aussi dans la vie de personnes qui ont des dizaines d'années de plus que moi de marche avec le Seigneur, que le Seigneur continue à leur ouvrir les yeux à la lecture de sa parole. Mais des fois, on a un peu peur de cela. Vous savez, hein, c'est facile de venir ici, « Je t'aime, Seigneur, je t'aime. » Mais surtout, voilà, on ne va pas voir ce que le Seigneur veut nous dire. C'est plus confortable parce que ça ne nous remet pas en question. Le Seigneur ne souhaite pas que nous ayons une vie confortable. En tout cas, pas encore maintenant. Ce n'est pas la chose la plus importante pour lui. La chose la plus importante pour lui, c'est que nous nous rapprochions de lui, à tel point que nous soyons en communion avec lui, unis à lui, que nous ayons la vie éternelle et que nous ressemblions de plus en plus à Jésus. Et ça ne se passe pas forcément tout seul, dans le confort. À la fois, il y a un côté exaltant, mais aussi des fois des choses que nous devons remettre en question. Mais c'est ça la vie avec le Seigneur. Ne restons pas là où nous en sommes aujourd'hui. L'immobilisme, ce n'est pas un bon signe spirituellement, c'est qu'on est endormi. Quelle que soit notre situation, nous pouvons encore nous rapprocher de Dieu. Mais sachant que cela ne se fera pas sans bouleversement, évolution, changement dans nos vies. Moi, personnellement, avec Dieu, des fois, j'ai tellement été secoué que j'ai tendance à préférer la manière douce, c'est-à-dire à d'essayer de faire en sorte qu'au fur et à mesure que le Seigneur me montre quelque chose, de m'y soumettre. Parce que je sais par expérience que des fois, il y a des choses où on n'a pas envie de bouger. Et puis ça s'accumule. C'est comme une digue. Le jour où la digue cesse, oh, ça brasse. Moi, je préfère les choses plus tranquilles, progressives. Le Seigneur veut nous faire avancer, quelle que soit la manière. Soyons prêts à ce que Jésus nous surprenne, nous bouscule et nous dérange. Parce que c'est comme cela qu'il nous fera avancer dans sa direction. Amen. Je vous invite à quelques instants de prière silencieuse. Père éternel, merci, car tu nous as créés et tu pourrais rester indifférent à notre sort. Mais non, tu t'intéresses à nous, tu nous aimes et tu nous aimes tellement que ton désir est que nous nous rapprochions de toi. Et merci parce que c'est pour cela que Jésus est venu jusqu'à nous, qu'il a vécu comme nous, qu'il nous a enseignés, qu'il nous a instruits. Et merci Père éternel parce que maintenant nous avons ta parole. Mais lorsque nous t'ouvrons notre cœur, nous recevons également ton esprit par lequel tu nous parles. n'est pas pour rien que Jésus est appelé la parole, que la Bible est appelée la parole de Dieu, parce que tu es un Dieu qui veut se révéler à nous. Mais Seigneur, nous avons des convictions fortes lorsqu'elles viennent de toi, que rien ne puisse nous ébranler. Mais lorsque ce sont des fausses convictions, eh bien Seigneur, fais-les voler en éclats. Seigneur, parle-nous, et s'il le faut, secoue-nous, dérange-nous, bouleverse-nous, pour que nous puissions, Seigneur, nous mettre en mouvement et nous rapprocher de toi. Merci car tu es un Dieu de grâce, un Dieu qui nous connaît, qui nous aime. Merci pour ta grâce sans laquelle aucun de nous ne pourrait se présenter devant toi. Mais aussi merci pour ton amour, pour tes soins de Père, pour tout ce que tu fais pour nous. Eh bien Seigneur, que nous puissions aller toujours, nous rapprocher toujours plus de toi. Et merci parce que, même si parfois c'est déstabilisant ou douloureux, eh bien, lorsque nous rapprochons de toi, en même temps notre cœur trouve une joie et une paix plus grande que rien au monde ne peut nous faire éprouver cela. Eh bien, merci pour cette joie et cette paix qui vient de toi lorsque nous sommes en ta présence. Continue, Seigneur, à nous attirer à toi. Et merci parce qu'un jour, tu nous auras totalement éclairés, transformés, et nous te verrons face à face, celle que tu es. Telle est notre espérance et nous voulons t'en remercier. Amen.